Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour cette nouvelle émission, La Petite Reine, dans un moment stratégique et attendu de la saison, la semaine entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. On a vécu une course absolument folle sur le Tour des Flandres. Voilà, un petit avis à tous ceux qui trouvaient que la course masculine n'avait pas assez de suspense. Et ben, regardez la course féminine, c'était vraiment une super bagarre avec du suspense jusque dans les derniers mètres. Et on arrive très rapidement, comme d'habitude, à Paris-Roubaix. Ce sera la 4e édition de Paris-Roubaix Femmes. Et donc, on va débriefer tout ça avec une petite analyse de la course de dimanche dernier et une petite preview pour voir un petit peu quelles sont nos attentes, nos favorites pour la course de dimanche. Pour m'accompagner aujourd'hui pour parler de cyclisme féminin, comme d'habitude, c'est Loïc qui sera à mes côtés. Salut Loïc, comment vas-tu ?
Salut, ça va, super. Un peu fatigué, j'ai super mal aux pattes là. Je me suis fait embarquer dans une histoire de trail par quelqu'un et je regrette amèrement mes décisions là.
Ah là là, les cyclistes qui se mettent au trail, hein, franchement, c'est pas une bonne idée ça. Tu vas te casser les jambes.
Ouais, mais les cannes, il n'y en a plus, il n'y a plus rien là.
Bon, bah j'espère en tout cas que tu as encore toute ta tête pour pouvoir parler analyser de main de maître tout ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est une période en tout cas qui est assez excitante. On a eu dans le calendrier là féminin pas mal de belles courses une fois par semaine. On a eu notamment à travers les Flandres, le trophée Alfredo Binda, Grand Wevelgem, mais cet enchaînement Tour des Flandres et Paris-Roubaix, il est quand même à part dans le calendrier et clairement un cran au-dessus.
Ah ben c'est sûr, c'est que là, c'est les 2 semaines qui font le printemps de beaucoup de monde. Donc, on a eu la première partie là, cette semaine qui a été pour moi incroyable. Ça a été cette course, ça m'a tenu en haleine sur tout le long. Comme tu disais, contrairement aux hommes où au bout d'un moment, tu avais l'impression que tu pouvais aller faire vaguer à tes occupations normales, c'est-à-dire aller faire la sieste ou un truc comme ça, parce que vraiment, là, tu t'es pas, tu t'embêtais pas si tu regardais les femmes, c'était incroyable.
Ouais, et là pour le coup, on va en parler aussi longuement, mais la grande favorite Lotte Kopecky n'a pas championne du monde, n'a pas, contrairement à son homologue champion du monde Mathieu Van Der Poel, n'a pas réussi à s'imposer à Oudenaarde et c'est une nouvelle victoire italienne, les Italiennes qui ont été très très en vue sur le mois de mars avec notamment Elisa Balsamo qui a enchaîné une victoire au trophée Alfredo Binda avant de gagner la classique Bruges de Panne. Elle a failli gagner Grand Wevelgem, elle s'est fait battre d'un cheveu par Lorena Vibus et une victoire italienne ce dimanche avec Elisa Longo Borghini qui remporte pour la deuxième fois la course après l'avoir gagnée il y a 9 ans en 2015. Le cyclisme féminin c'était vraiment autre chose à cette époque-là mais en tout cas ça fait plaisir aussi d'avoir pas forcément des grosses surprises, mais des vainqueurs qui sont un petit peu inattendus.
Moi, je trouve que Longo Borghini, ça fait vraiment très longtemps qu'elle a été qu'elle est sur le circuit féminin, mais je trouve que cette course-là, elle a vraiment été animée par la nouvelle génération sur tout le long de la course. On a eu Van Elroy, on a eu Peters, on a eu des très jeunes qui ont montré qu'elles étaient là. Et moi, ça m'a fait super plaisir parce que je me dis, on va vraiment, dans les prochaines années, avoir du grand spectacle.
Ouais, du grand spectacle. Et puis cette équipe Lidl Trek qui est vraiment hyper costaud et qui, pour l'instant, fait plus que titiller la SD Works. Elle est même en train de s'imposer, en tout cas sur ses dernières courses, elle avait vraiment montré sa force de frappe. Ce que je te propose de faire, Loïc, pour parler un petit peu plus en détail de ce round 2, c'est de reprendre quelques faits de course en expliquant un petit peu ce qui s'est passé et puis en se posant 2-3 questions par rapport à ces mouvements. Il y en a eu quelques-uns qui sont très très intéressants à observer. Le début de course était assez classique avec une, comme d'habitude, échappée, ça roule plutôt groupée derrière. Et la course, elle s'est vraiment lancée dans le Koppenberg, où on sait à quel point ce mont est difficile. Les pavés, en plus, étaient rendus glissants par la pluie cette année. Et dans le Koppenberg, c'est Marianne Vos qui a mis un gros tempo. Et on a tout de suite vu que Lotte Kopecky n'était pas du tout en jambes. Elle a même mis pied à terre. Et un groupe a pu partir devant avec bon nombre de favorites. Mais sans Lotte Kopecky, sans Demi Vollering également, hein, qui pouvait être considérée comme une favorite. La SD Works n'ayant mis que Lorena Vibus, la sprinteuse un peu moins à l'aise quand la route s'élève, à l'avant. Et à ce moment-là, on a vu forcément hein, devant ça collaborait. Alors il y avait Puck Peters, il y avait Elisa Longoborghini, il y avait Nieve Adoma, et puis j'en oublie aussi sûrement. Et derrière, on a vu la SD Works vraiment rouler. La question que j'ai envie de te posé à ce moment-là, on se dit Kopecky elle est vraiment pas dans le coup. Est-ce que ça vaut le coup de rouler derrière comme ça, sachant que Kopecky déjà était pas en jambes et qu'il y avait Lorena Vibus devant? Est-ce que cette stratégie était vraiment pertinente à ton avis?
Moi je trouvais que c'est très compliqué à... Enfin, c'est très compliqué à dire parce que en fait il y a eu ces chutes avant. Où en fait, il me semble que Kopecky elle est tombée en début de course quand même, et il y a Reusser qui s'est fait prendre dans une très grosse chute, c'était hors difficulté
exact.
Tout ça,
ouais.
Et ça a vraiment eu un impact sur la course, je trouve, sur la stratégie de la SD Works aussi, il y a eu un impact, mais le problème c'est que Vibes, elle n'arrive pas très bien à monter, ça se voyait qu'elle a, enfin plus tard dans la course, on voit bien qu'elle galère à suivre tout le monde dans les monts. Et en fait, quand tu as deux filles comme ça qui sont en super canne, parce que Vollering, elle le montre après qu'elle est quand même en très bonne canne, parce qu'elle arrive à remonter sur plusieurs groupes juste à la force de la pédale. Et Kopecky, en effet, était un peu en retrait. Mais si elle arrive à rester dans le groupe, on ne sait pas si elle ne peut pas essayer de régler le sprint ou essayer de faire une attaque juste avant la fin. Donc, je trouve que c'était pas une mauvaise idée en fait de les faire rouler parce que Phoebus, il y avait un très haut risque qu'elle saute en fait.
Comme elle l'a. Oui, et puis il y avait l'expérience de l'an passé où je crois qu'elle se retrouve un petit peu dans la même situation. Elle est dans le groupe de tête et puis elle saute. Alors je sais plus si c'est dans le Taillenberg ou. Mais voilà, c'était assez loin quand même de l'arrivée où elle n'arrive pas à suivre les meilleurs à la bagarre dans les monts.
Oui, c'est sûr. Mais on l'a bien vu, Demi Vollering était dans une forme. En fait, au début, je me suis dit, elle enlève pas sa veste. Je me dis, elle va travailler pour Kopecky et elle va pas trop faire grand chose. Et en fait, on le voit, elle est en super forme finalement. Elle arrive à rattraper du groupe. Au début, j'étais vraiment incertain sur qui était vraiment le leader de la SD Works. C'est jusqu'à la fin, on savait vraiment pas qui était le leader annoncé. Et après, je me suis dit, ça va peut-être être Kopecky, parce qu'ils font une stratégie, on dit, bon, le printemps, c'est pour Kopecky, et après, Vollering va pouvoir s'exprimer sur les grands tours. Et finalement, les deux étaient en super forme, et je pense que ça a été assez compliqué. C'est pour ça qu'elles ont roulé, parce que, il y en avait une qui avait plus les jambes pour rouler, et l'autre qui pouvait finir à la fin. Donc, c'était pas si déconnant que ça.
Moi, ça m'a pas surpris qu'elle roule derrière pour essayer de rentrer, parce que forcément, c'est logique quand t'as deux filles avec ce talent-là dans l'équipe, t'as envie de rentrer. En plus, elle prenait pas un gros risque en roulant de ramener des adversaires, parce que des fois, tu peux un petit peu te poser la question aussi de ne pas rouler parce que tu ramènes des filles qui vont pouvoir être dangereuses, donc ça peut perturber à la limite ta coéquipière qui est à l'avant. Là, il y avait pas ce cas-là. Après, moi, j'ai été un petit peu surpris que ce soit encore Vollering qui ramène Lotte Kopecky, alors qu'on voyait clairement que Kopecky, elle n'était pas dans un grand jour du tout. Et ça s'est confirmé par la suite. Et bon, elle a lâché aussi beaucoup, beaucoup d'énergie pour rentrer. Mais clairement, de toute façon, je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de rouler à ce moment-là. Mais elles ont vraiment... dépenser énormément, énormément d'énergie. En plus, on a vu après, je crois que c'est dans, alors je sais plus dans quel mont c'est, mais où Vollering lâche carrément Kopecky quand elle roule en tête. Il y a juste Vandenroy qui arrive presque à la suivre. Et c'est pour ça que ouais, c'était un petit peu curieux que Vollering roule alors que bah, derrière Kopecky était moins forte. On voyait qu'elle était moins forte. Alors je sais pas vraiment comment elles se sont parlé. En tout cas, elles se sont pas mal entendues. C'était même pas ça la question. Mais ouais, en tout cas, Vollering, elle a montré qu'elle était hyper costaud et du coup, ça permet d'enchaîner avec le deuxième point de course. On l'a vu. En chasse-patate un petit moment, Vollering, elle était à deux doigts de rentrer, puis après ça remontait, ça accès... devant en fait ça se regardait, puis après ça attaquait, y avait pas une grosse organisation, ce qui permettait à Vollering derrière d'être bien plus régulière, et puis elle a fini par rentrer. Et par la suite, Vandenroy, qui avait été un petit peu décroché, elle a fait mieux que rentrer parce que quand elle revient sur le groupe de tête, elle profite d'un moment de flottement. Tout le groupe est sur la droite et on voit une vue d'hélico. Et là, elle passe comme une fusée sur la gauche et elle fait une énorme différence rapidement. Et ça s'enterre un petit peu derrière. Et donc, ça, c'est juste avant le dernier passage Vieux-Coiremont-Paterberg. On est à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée et Lotte Kopecky également arrive à rentrer avant le Vieux-Coiremont. Il y a un peu plein de choses à dire sur ce moment de course. Déjà, on peut, je pense, parler de la superbe inspiration de Shirin Van Nistelrooy, qui a très bien senti le coup, qui est rentré en bon moment et qui direct contre ce groupe et arrive à partir tout seul. Et clairement, à un moment, on se disait presque, mais en fait, elle va aller s'imposer en solo tellement elle est en train de creuser l'écart et que derrière, ça s'enterre.
Bah, elle avait l'air en super forme. Enfin, je me souviens justement après le Quarmont, elle est en position aéro et je me dis, elle allait en super forme et tu dis, bon, elle va aller finir la course. Mais en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle revienne en chasse-patate comme ça. C'est qu'elle était même pas dans les roues de Vollering,
Non, non, elle était un peu derrière, ouais.
elle était derrière, elle devait être à une trentaine de secondes derrière et tu le vois justement sur une vue d'hélico juste avant. Tu dis, bah, il y a quand même un très gros trou et à un moment, enfin. On se dit, bon, c'est très bien si elle revient dans le groupe, mais on se dit, il n'y a aucune chance, quoi. Elle fera rien. Enfin, elle est finie, quoi. Et en fait, non, elle fait une attaque, mais elle est sortie de nulle part. Honnêtement, elle prend 300 mètres en 2 minutes, même pas. Et on se dit, mais d'où est-ce que ça sort, ça? Comment est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle a réussi à s'économiser en se disant, de toute façon, je rentre à mon rythme pour pouvoir placer une attaque? Ou est-ce qu'elle était... En pleine forme, on ne sait pas trop.
Ouais, je sais pas,
Mais le...
c'est un peu comme moi l'impression que j'ai eue en voyant son attitude, c'est comme si elle était pas hyper bien avant, un peu à bloc, et puis où c'est galère de rentrer, et puis d'un coup, en fait, elle est passée devant, et c'est comme si elle était passée dans un autre mode hyper offensif, et d'un coup, c'est comme si elle avait retrouvé des jambes de fou, juste parce qu'elle était en tête de la course.
Bah après, enfin, on a vu les conditions dantesques qu'il y avait. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. La pluie, ça devait être ultra glissante partout. Et je sais pas, des fois, je sais que sur des courses comme ça, pluvieuses, des fois, tu as un moment de on-off où tu dis, d'un seul coup, tu retrouves tes jambes et tu peux partir à fond. C'est peut-être ça qui s'est passé. Parce que c'est les conditions. Enfin, pour moi, c'est ce qui se passe quand des fois je cours sous la pluie. C'est que en fait, il y a un moment où je fais on-off et je peux. Bon, c'est un peu aussi le cas des diesels, mais c'est un peu le truc où d'un seul coup, ça revient. Et c'est peut-être ça qui s'est passé pour elle.
Ouais, puis je pense que mentalement, il y a quelque chose qui se débloque aussi. C'est pas pareil quand t'es en chasse-patate où tu galères, tu sais pas si tu vas rentrer sur le groupe de tête, et puis en une fraction de seconde, tu te retrouves en tête du Tour des Flandres à 20 bornes de l'arrivée. Ouais, clairement, t'as plus mal aux jambes dans ces cas-là.
Ah bah c'est sûr, je pense qu'il y a le côté mental où elle devait être. Enfin, devait être une expérience incroyable d'être devant tout le monde et de se dire j'ai réussi à contrer comme ça. Ça doit donner une énergie de dingue, c'est sûr.
Et je trouve qu'elle a eu l'intelligence à ce moment-là de pas attendre Swinkels, la fille du AE,
Oui, elle était. Oui, en effet. Vas-y,
qui
continue.
alors qui oui qui bah, qui a mis un moment, je crois qu'elle est rentrée sur elle quand même un moment, mais c'était Rick Rack, et puis après elle a, il me semble hein, qu'elle a sauté dans un mont quand elles étaient les deux en tête, mais
À un moment, elle attaque aussi avec Peter Sfingles, non? Parce que je me
ah
souviens
oui,
de
non,
l'avoir vu un
c'est elle est avec Puck Peters, mais elle se fait rattraper par Puck Peters en fait. Non, c'est ça, t'as raison.
peu. Oui.
Elle arrive
Et.
pas à rentrer sur Van Den Rooy, mais c'est Puck Peters qui, bah, du coup derrière a contré quelques temps après l'attaque de Van Den Rooy, un petit peu en sentant que le bon coup était sûrement en train de partir. Et bah, du coup, c'est aussi ma prochaine question par rapport à l'attitude de Puck Peters, qui, entre parenthèses, a été une fois de plus excellente, comme depuis le début de la saison, elle est vraiment impressionnante. Mais on sent qu'il lui manque encore un petit quelque chose pour aller chercher la victoire. Et là, Puck Peters, finalement, elle a contré, mais c'est elle qui s'est retrouvée en chasse où bah, elle était un peu trop loin pour rentrer. Elle a pas creusé énormément sur le groupe derrière. Et est-ce qu'elle a pas gaspillé de l'énergie, cette énergie qui aurait pu lui permettre de rentrer un petit peu plus tard dans les monts pavés, un peu à l'image de ce que Nievia Doma a pu faire. Donc ma question, c'est est-ce que finalement ce compte de Peters, qui aurait pu être un coup bien senti, est-ce que c'était pas finalement un petit signe de nervosité et qui lui a fait perdre le podium?
Bah, je pense que tu as complètement raison. Moi, enfin, cette coureuse, je l'adore. Je la suis depuis un moment et j'adore aussi le fait qu'elle fasse du cyclocross et de la route. Et justement, elle a une technique incroyable. Elle fait aussi du VTT. Et justement, elle est aussi super forte en VTT. C'est un peu un multi-tool, cette coureuse. Elle est partout. Et je pense qu'il lui manque aussi un peu cet aspect un peu stratégique sur la route où elle va attaquer peut-être pas au moment le plus judicieux. Parce qu'elle a quand même une aisance sur les pavés, je pense, qui est meilleure que les autres. Et elle se dit aussi, bon, si je suis dans le groupe sur un des monts pavés comme ça, il peut avoir une chute ou quelque chose comme ça, mieux vaut se placer à l'avant. Mais oui, et pour moi, elle gaspille clairement une cartouche. Mais après, il fallait peut-être voir. Elle se dit peut-être à un moment, ah, j'ai une ouverture là, j'y vais parce que. Sur les derniers monts, il n'y aura peut-être pas cette ouverture et je me sens en patte, il faut que j'y aille. Donc ça dépend vraiment aussi de la situation de course. Mais le résultat final, c'est qu'en effet, pour moi, elle n'attaque pas au moment le plus judicieux et en fait, elle a aucune chance sur le sprint final. Donc il fallait peut-être attaquer un peu plus tard.
Ouais, parce que
Après, peut-être que.
tu sais que ça va rouler derrière aussi, mais en même enfin parce que il y avait un groupe assez nombreux, il y avait encore des équipières pour rouler. Je pense que c'est ça aussi qui
Elle est un
pèse
peu
dans
toute seule,
son
c'est ça le
choix.
problème aussi.
Ouais, mais
Elle.
elle aurait pu se dire, bah attends, là il y a les SD Works, elles sont plusieurs. Il y avait Van Empel aussi qui aurait pu rouler pour Marianne Vos. Donc tu peux te dire aussi à ce moment-là, bah attends, il y a des filles, elles ont des équipières. Moi je vais rester au chaud. Elles vont pas laisser Van den Rooy partir comme ça parce que Vos, Kopecky, Vollering, elles veulent gagner. Et moi je vais garder mon énergie pour la fin de course et puis pour pouvoir suivre. Tu prends pas s'il y avait que des favorites qui se seraient regardées si elle avait attaqué, là ça aurait peut-être été un petit peu différent, mais en tout cas bon elle a essayé. Et puis pour revenir sur Puck Peters, c'est vraiment sa première saison sur la route hein. L'année dernière elle fait deux courses dont l'Estrade Bianche où elle fait cinquième, et puis là c'est vraiment sa bah voilà sa première alors partie de saison, parce que là elle va se retransformer comme tu l'as dit en vététiste pour aller essayer de remporter l'or olympique à Paris, mais ouais, clairement elle est super forte et je pense qu'on va la revoir à l'avant, et quand elle aura un sens tactique aiguisé, je pense que ça va faire très très mal.
Bah, il va lui falloir aussi une équipe autour. Je pense que elle peut pas justement là en fait elle fait un peu des attaques un peu quand on s'y attend pas et elle utilise vraiment des parce qu'elle est toute seule en fait elle fait des coups d'éclat comme ça mais j'espère que chez c'est Alpecin
C'est
qui est avec
Phoenix
elle
de Kenenc.
Phoenix Alpecin pardon
Non, il n'y a même pas Alpecin. Ah,
ah, y a même pas Alpecin.
c'est la complexité des sponsors où le nom de l'équipe, c'est Phoenix de Kenenc.
Phoenix de Coninck et en fait Je pense qu'il faudrait quand même qu'elle se retrouve avec du monde autour. Après, à voir comment on va se faire le recrutement pour la saison prochaine. Parce que comme tu l'as dit, elle retourne sur le VTT. Et j'espère qu'elle va très, enfin, elle va faire une super saison au VTT. Après, il faut aussi voir. Je pense que dans le futur, il ne faudra pas trop surcharger ses saisons. Parce que là, elle court tout au long de l'année, de façon ultra intensive. Bon, elle est très jeune, ça peut encore se faire. Et justement, il faudra voir si quelles sont ses priorités et se dire. Est-ce que si je veux performer sur la route, est-ce que c'est possible de faire du VTT ou faire du cyclocross à aussi haute régularité? C'est un peu le dilemme Van der Poel en fait.
Ouais. Bon, en tout cas, on suivra ça avec attention. Du coup, on va passer un des derniers moments de course, en tout cas le dernier mont pavé où la décision s'est faite dans le dernier passage sur le Paterberg, dont le sommet est situé à peu près 13 km de l'arrivée. Donc là, on a toujours Van den Rooy en tête et puis le groupe des favorites derrière qui roule à bloc. Et là, on voit que clairement les plus fortes sont devant, et c'est Nievedoma et Longo Borghini qui arrivent à s'isoler en tête, qui font un petit écart sur le reste du groupe, et notamment Puck Peeters, Sylvia Persico, et puis également les deux filles de la SD Works, Demi Vollering, Lotte Kopecky et Marianne Vos, qui elles n'ont pas pu suivre l'accélération assez tranchante de la Polonaise puis de l'Italienne, qui décident à ce moment-là, donc elles sont à. Je crois moins de 10 secondes de Van den Rooy au sommet. Et là, Longo Borghini prend la décision de rouler sur sa coéquipière en ramenant Nievedoma pour créer un groupe de 3 pour lutter contre les filles qui sont derrière. Habituellement, ça se fait pas trop de rouler sur ses équipiers quand ils sont devant. Mais là, Longo Borghini, elle a pas vraiment hésité. Je crois que c'était également les consignes du directeur sportif. Qu'est-ce que tu as pensé, Loïc, de ce mouvement de course, déjà de cette ascension du Paterberg, et puis de ce qui s'est passé tout de suite après, de la décision de la Lidl Trek?
On voit bien sur le Paterberg, ils se reviennent à 10 secondes, ils reviennent à très 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 proche de Van Roy. Et en fait, je pense que c'est la bonne décision parce que, après, sur la partie plate de la fin, Van Roy, elle a très peu de chance contre un groupe aussi, enfin, qui peut être désorganisé, mais qui roule quand même beaucoup plus vite qu'elle, je pense. Et les filles vont beaucoup s'économiser dessus. Sachant que se retrouver à 2 contre 1. Avec Nivea Doma, en fait, au sprint, la Lidl Trek a. C'est 9 coups sur 10, il la gagne pour moi. Parce que Nivea Doma, c'est pas une sprinteuse. Et en fait, je pense que Longo Borghini, qui était tombé avant, et vraiment au début de course, enfin, plus sur le début de décision de course, on voit qu'elle revient super facilement sur le groupe de tête, sur tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle a un peu esquivé tous les pièges de la course et elle s'est retrouvée dans une super position. Mais c'était pas, pour moi, c'est pas du tout de la chance. Je pense qu'elle avait des super cannes et en fait, elle se sentait vraiment en forme. Et à la Trek, on s'est dit, là, on a très peu de chances que Van Aanholt finisse toute seule. Il faut mieux qu'on soit à 2 contre 1. Dans un petit groupe qui va pouvoir tourner un peu et vraiment rouler vite. Alors que si on se retrouve sur un sprint à la fin, il y a Marianne Vos qui est dans le groupe. Elle peut très bien régler le sprint d'un petit groupe comme ça, ou même une Kopecky. Je pense que sur le calcul pour moi de la Lidl Trek, il a été très bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Ouais, si, je suis entièrement d'accord avec toi. Je posais la question, pour effectivement alimenter le débat. Mais déjà, Longo Borghini, c'était la leaduse de l'équipe, clairement. Et elle a montré qu'elle était vraiment très forte dans tous les passages qu'on a un petit peu analysés depuis le début là, que ce soit le Koppenberg, les enchaînements de monts. Elle était toujours extrêmement bien placée. Elle montrait, elle, quand il fallait remonter, elle remontait. Elle prenait jamais trop de vent. Elle était, enfin, vraiment, elle courait à la perfection et courir à la perfection, c'est pas juste savoir. Alors, il y a savoir comment courir, mais il y a aussi avoir les jambes pour le faire. Et clairement, elle a montré qu'elle était hyper forte dans les enchaînements des monts. Et c'est sûr que elle est sur le papier bien plus rapide que Nieviadoma. Elle avait tout intérêt à à ne pas attendre. Enfin, parce que si elle se met derrière Nieve-Adoma et qu'elle roule pas, c'est même pas dit que Nieve-Adoma revienne sur Vandenroy avant qu'elle se fasse, que le groupe de derrière revienne. Donc elle avait tout intérêt à faire ça, sachant que comme tu l'as dit, Vandenroy, il avait pas assez d'avance à mon avis pour finir en solo. Je pense qu'elle était déjà bien cramée de. Bah, du fait, ça faisait quand même 30 bornes qu'elle roulait toute seule une fois en chasse-patate et puis après tout de suite à l'avant du groupe. Et clairement, après, t'es à deux contre un. Tu te dis que de toute façon, bah, il n'y a pas de raison qu'on se regarde pour le sprint parce qu'elle aurait sa coéquipière pour l'emmener. Donc, que c'était clairement la chance de gagner et qu'elle a su saisir aussi. Aussi, bah, voilà, d'une manière assez limpide. Et puis, elle a vraiment pas hésité. Je pense que quand tu te retournes de toute façon au sommet du Paterberg et que tu vois que Vos ou Kopecky, elles sont pas dans la roue, bah, forcément, tu roules. Tu vas pas te dire, oh, bah non, machin, je commence à calculer parce que il y a quand même très peu de chances de les battre au sprint, même si Longoburgini, elle est rapide. C'est bien plus facile de manœuvrer contre Nieve-Adoma et avec une équipière à l'avant surtout. Donc non, non, moi je suis d'accord, mais elle m'a vraiment. C'est elle qui s'impose et je pense clairement que c'était la plus forte de la course. Elle m'a impressionné vraiment sur la dernière partie de course là. Voilà, comme je le disais, tactiquement et physiquement, elle a rendu une super copie. Donc elle a eu la chance de ne pas souffrir de la chute qu'elle a eue un petit peu plus tôt. Mais clairement, c'est une superbe perf qu'elle nous a sortie là. On en parlera tout à l'heure, mais elle se pose également en bonne favorite pour Paris-Roubaix la semaine prochaine. Mais ouais, voilà, la Lidl Trek a bien manœuvré, mais c'est clairement Longoburgini qui était très très forte selon moi.
Bah, je pense que justement, au début de saison, on se demandait mais qui va pouvoir bien battre la ST Works. Et t'as l'impression que sur cette partie de saison, la Lidl Trek se retrouve souvent en surnombre. Si Kopecky se retrouve pas trop en forme. Et je pense que sur Paris-Roubaix, faudra faire attention à se retrouver dans les bons coins parce que il me semble que Van Dijk, elle tombe aussi au début de course et je ne sais pas si elle sera disponible. Pour Paris-Roubaix. Donc ça fait quand même une très grosse rouleuse qui perd. Mais je pense qu'ils seront avec la SD Works la grosse équipe à battre sur le Paris-Roubaix.
Ouais, clairement. Et puis du coup, bah pour finir ce Tour des Flandres, on ne peut pas ne pas parler de Caterina Nieviadoma qui termine deuxième, premier podium pour elle sur le round 2. Donc elle a réussi à sortir quand même de sa roue des filles hyper fortes dans la dernière ascension du Paterberg. On l'a vu bah, bien en jambes hein, quand même. Elle a moins couru que d'autres filles, mais sa dernière course c'était l'Estrade Bianche où elle fait quatrième. Elle avait fait septième du Newsblatt également. Ses prochains objectifs seront les classiques ardennaises. Et j'ai trouvé qu'elle était déjà, comme je l'ai dit, hyper forte surtout dans la dernière ascension. Et pareil, elle a couru assez intelligemment parce qu'elle a pas. Elle en a pas trop fait avant, comme on a pu la voir fonctionner parfois. Je crois que c'est au Het Nieuwsblad où elle arrive sur le mur de Grammont, c'est elle qui emmène le groupe toute blinde, et puis dès que ça accélère, elle peut pas suivre. Là, je l'ai trouvée un petit peu plus discrète sur la course pour vraiment tout garder sur la dernière ascension. Et ma question, c'est est-ce que elle aurait pas pu espérer mieux dans le final? En notamment ne collaborant pas jusqu'au bout. J'ai cru un moment à 3 km qu'elle allait se mettre derrière et puis dire bah non les filles, moi je passe plus. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, savoir est-ce qu'elle aurait pas pu manœuvrer autrement pour gagner tout simplement.
Bah déjà, je pense qu'on va devoir nous taper un peu sur les doigts parce qu'il me semble que sur la dernière émission, on lui donne quand même très très peu de chance. Et finalement, elle nous fait un super podium.
Elle nous a
Et
écoutés, c'est pour ça.
ouais, c'est pour ça. Enfin, c'est cruel pour elle. J'ai l'impression que elle se retrouve, elle fait plein de podiums, mais elle gagne quand même assez rarement, malheureusement.
Elle a plus gagné
Mais non.
depuis l'Amstel 2019. Je crois que c'est
Ouais,
ça.
bah, tu...
La
mais pourtant, elle
stat.
se retrouve sur tous les podiums
Ah
de
oui.
toutes les grandes courses. Et c'est ultra cruel pour elle. Et je pense que quand ça fait autant de temps que t'as pas gagné, je pense qu'il y a quand même des questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire que D'accord, elle se retrouve avec des super filles. Mais est-ce que tactiquement, il n'y a pas des choses à revoir? C'est la question qu'il faut se poser. Et justement, dans cette course-là, est-ce qu'elle n'aurait pas pu essayer de tenter un coup à 1 km? Bon, d'accord, elles sont deux chez la Trek. Et en fait, elle aurait peut-être pu la reprendre. Mais enfin, pour moi, il fallait tenter quelque chose. Parce qu'au sprint, elle avait aucune chance. Elle avait vraiment aucune chance. Et mais derrière, aussi, le dilemme qu'elle avait, c'est pas une situation très facile, noire ou blanche pour elle. Je sais pas, elle a superbement couru toute cette course et il faut pas, vraiment pas lui retirer ça. Et sur le final, faut poser des questions. C'est-à-dire que, bon, d'accord, à 3 km, si elle a de rouler, peut-être que le groupe de derrière revient. Parce qu'on voit bien qu'à la fin, justement, on s'arrête de collaborer là à 600, 700 mètres. Et on voit très bien que ça revient très, très dangereusement quand même. Mais pour moi, elle aurait dû tenter une attaque. Un petit moment parce que elle arrête de rouler beaucoup trop, enfin elle arrête de rouler assez tard
Ouais,
et
même elle
justement le
arrête
groupe
pas de
revient
rouler
donc ça...
quasiment. Enfin, c'est juste dans le dernier
Oui, donc
kilomètre, quoi.
mais je pense que juste sur des futures courses, est-ce que chez la Canyon-SRAM, est-ce qu'il faut essayer de d'avoir des meilleures équipières ou est-ce qu'il faut revoir les tactiques de course parce que il faut qu'elle gagne quoi. C'est une coureuse qui se doit de gagner. C'est la tête de, enfin c'est la tête de son équipe. Il faut qu'elle fasse du résultat là. Moi je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions sur sa carrière parce que il faut vraiment qu'elle commence à gagner un peu plus. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors déjà, pour être tout à fait précis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, elle a gagné l'Amstel en 2019, elle a gagné la même année une étape du Tour du Grande-Bretagne et elle a été, alors c'est pas sur route, mais championne du monde de gravel en 2023. Voilà, pour être précis, je trouve que t'es dur quand même avec elle de la remettre en cause sa carrière. Je pense qu'il y a plein de courses où elle passe pas loin. Moi, que je trouve dommage, c'est effectivement, comme tu l'as dit, qu'elle n'ait pas tenté quelque chose ou qu'elle n'ait pas plus joué avec ses adversaires. Il y aurait peut-être eu mieux à faire, mais clairement, elle sécurisait le podium. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit après la course, dans sa communication sur les réseaux sociaux par la suite. Elle a dit qu'elle était hyper heureuse d'avoir fait deuxième, que c'était un super résultat, ce qui est vrai en plus, hein, c'est clairement un très bon résultat, surtout pour elle qui est considérée comme une grimpeuse. Elle fait 49 kilos, donc sur les pavés ça doit quand même secouer un petit peu. Et c'est pas forcément un aveu de faiblesse ou un manque d'ambition. C'est aussi une grande course. Elle avait jamais fait un tel résultat sur le Tour des Flandres. Donc voilà, je pense que quand elle s'est retrouvée devant et qu'elles étaient trois, bah clairement, elle s'est pas trop posé de questions, et puis elle s'est dit, bah voilà, à mon avis, je vais faire, voilà, si au pire, je fais 3, même s'il y a un souci, et bah c'est déjà super bien, c'est un truc que j'ai jamais fait sur le Tour des Flandres. Moi, mes objectifs, c'est plus les Ardennaises, clairement, le podium, je signe, parce que si je roule pas, je prends le risque de me faire rattraper, et puis bah, au sprint, je suis aussi une super sprinteuse, et si je fais 6e, bah, je risque de m'en mordre les doigts. Donc,
Au début, j'ai cru
là-dessus.
que sur le sprint, j'ai cru à un moment qu'elle allait le faire en plus. Parce que vraiment, je me suis
Mais
dit,
c'est
ah,
la
mais en
vue de
fait,
face,
elle
ça.
est. Je sais, mais en fait, elle est.
Ouais.
Je crois que Longoborghini gagne quand même par un vélo. Où c'est. Mais je me dis, ah non, elle va le faire, elle va le faire. Enfin, en effet, j'ai
Ouais,
peut-être été un peu.
mais c'est vrai que ça c'est le problème. Mais moi, je suis pas pour les sprints filmés de face parce qu'on voit rien du tout. Et de face, on croit vraiment qu'elle est devant hyper longtemps. Et en fait, tu revois le sprint vu d'hélico de dessus. Non, clairement, tu vois qu'il y a pas de suspense quoi. Mais
Ouais.
oui, on a eu cette impression-là en direct, effectivement. Surtout quand on savait pas trop où était la ligne, on voyait pas les panneaux, voir à quel quand elles ont lancé, mais Vandenroy, en fait, elle a lancé très loin le sprint. Donc, ça a permis aussi à Longoborghini de se lancer. Et puis bah, peut-être pour finir, par rapport à son équipe de la Canyon-SRAM, c'est sûr qu'elle n'a pas la meilleure équipe du circuit. Alors, il y avait Chloé Dygert, hein, qui est tombée dans le Koppenberg, et puis je crois qu'elle n'a jamais pu rentrer, hein, derrière, il me semble. Elle finit assez loin. Je trouve que quand même elle s'en est bien sortie. Enfin, je trouve qu'elle a bien couru. Niewiadoma, parce qu'elle a, elle en a pas trop fait avant. Et ça, c'est des fois des choses qu'elle pouvait. C'est des petits défauts qu'elle pouvait avoir dans sa manière de courir. Et là, j'ai trouvé plutôt. Plutôt juste quoi. En tout cas, voilà, peut-être sur cette fin de course où il y avait sûrement de meilleures choses à faire pour espérer la victoire. Mais en tout cas, pour terminer sur le podium ou faire deuxième, elle a clairement fait le taf. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas la force de frappe de la SD Works ou d'une autre formation ou de la Lidl Trek. Mais elle est présente, elle s'est fait plutôt, discrète toute la course, j'ai trouvé, et ça c'était pas mal, c'était plutôt intelligent, et je pense que c'est ce qui lui a permis de pouvoir sortir dans le Paterberg à la fin. Quand Marianne Vos a fait le tempo dans le Koppenberg, quand Kopecky et Vollering ont beaucoup roulé derrière pour rentrer, quand Puck Peters a fait sa petite escapade juste avant, et ben elle, pendant ce temps-là, elle est restée plutôt au chaud. Et on sait que le Tour des Flandres, c'est une course d'usure, c'est une répétition d'efforts maximaux de 2 à 5 minutes. Et ben dans ces cas-là, il faut s'économiser le plus possible. Et là-dessus, elle a été plutôt forte. Donc ouais, non, en tout cas, ça va être intéressant de la suivre sur l'Amstel, sur la Flèche et sur Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'on aimerait tous la voir gagner une des trois courses. Et ouais, en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Bah écoute, Loïc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce Tour des Flandres.
Juste que j'ai adoré cette course.
Ouais, c'était
C'était
étonnant, mais c'était
super à
génial.
voir. C'était incroyable à voir. J'ai pris mon pied. Et bon, j'ai peut-être été un peu dur en disant remettre sa carrière en cause, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que, en fait, moi, enfin, j'adore cette coureuse, justement. Ça me frustre tellement de la voir toujours faire des podiums et pas lever les bras. Mais je me dis que là, bon, cette année, je pense que elle devrait quand même avoir plusieurs occasions où j'espère qu'elle va faire quelque chose. Et bon, après, faut se dire que peut-être qu'il y aura Peters derrière pour essayer de lui. Parce que c'est. Bon, c'est pas exactement les mêmes profils, hein, mais je pense que il va falloir qu'elle fasse gaffe un peu. Non, non, c'est une super coureuse, mais c'est moi, ça me frustre de ne pas l'avoir gagnée. C'est ça qui m'énerve. Et j'espère qu'elle aura plein de victoires. Faut vraiment pas. Faut. C'est. Elle a superbement bien couru. Il n'y a rien à redire sur sa course. Et en effet, elle va chercher le podium et c'est déjà super pour elle et son profil. Parce que justement, au début, on lui donne aucune chance. Et enfin,
Oui, clairement.
et en fait, elle fait un super résultat. Donc, non, non, elle a superbement bien couru.
Eh bien, on suivra ça avec attention. Bah, je pense qu'il est temps de passer à la preview de Paris-Roubaix, Loïc, parce que on en a l'habitude. Paris-Roubaix arrive une semaine après le Tour des Flandres. On est sur une course, alors qui est beaucoup plus jeune hein, chez les femmes. Ce sera seulement la quatrième édition. Cette course qui a été créée en 2020 et la première édition a eu lieu en 2021. Bah, dans un premier temps. Je te propose de nous présenter rapidement le parcours qui part, vous en avez l'habitude, non pas de Paris bien sûr, mais je crois qu'il part de Denay avec un enchaînement de secteurs pavés sur la deuxième moitié de course pour arriver dans le vélodrome de Roubaix.
Oui, il me semble que enfin, c'est une course qui fait 149 km, donc c'est une course qui est quand même déjà assez longue. On se retrouve avec 17 secteurs pavés, avec bon, le vélodrome à la fin, etc. Il me semble qu'il n'y a eu aucun changement au niveau du parcours. Donc on aura exactement la même chose que l'année dernière. Je ne sais pas ce que tu as pensé de l'édition de l'année dernière, mais moi, ça m'avait fait quand même. J'avais adoré la course.
Ouais,
Donc.
C'était un Paris-Roubaix avec échappée matinale qui arrive au bout, quoi. C'était
Bah,
ça.
c'était incroyable à voir.
C'était fou.
Oui. Donc, bon, peut-être que les équipes vont être un peu plus. Bon, vraiment, on se méfie un peu plus de l'échappée matinale, mais justement, c'est ce qu'on disait, c'est une course qui est super jeune. Il y a eu trois éditions pour l'instant. Et en fait, je pense que les équipes ne savent pas encore exactement comment aborder la course. Et ce qui permet aussi l'année dernière que ça se finisse en échappée matinale. Parce que je pense que s'il y avait une très grosse ancienneté de course. Je pense que ça aurait beaucoup plus roulé dès le début.
Ah, après, ça arrive aussi chez les hommes, hein.
Oui, ça arrive
Alors, moins
quelquefois.
souvent, hein, mais c'est peut-être plus, mais tu vois, les Matthew Heyman, les un peu plus anciens Van Sumeren, Stuart O'Grady. Alors, ça arrive pas une année sur deux, mais on sait qu'en tout cas, les membres de l'échappée matinale, suivant les faits de course, peuvent s'imposer. Donc je pense que c'est aussi mais je te rejoins dans ce que tu dis, c'est sûr que les c'est une course qui est vraiment à part dans le calendrier Paris-Roubaix et il y a une spécificité, les équipes la maîtrisent peut-être pas encore.
Ouais, oui, c'est sûr que enfin, c'est une nouvelle course. Après, y a tout l'aspect en fait incertain de Paris-Roubaix qui rajoute tellement de piment, c'est que tout peut arriver sur cette course. Et donc, ce qui a donné l'année dernière un scénario assez incroyable. Bon, là, on a tout. On peut commencer à aborder les coureuses, mais en fait, on a toute la forme du rondeux qui revient et on peut essayer de se dire ah, telle coureuse en forme, telle coureuse en forme. Est-ce que certaines équipes vont pouvoir jouer avec leur pion ou pas? Je pense qu'on peut commencer par dire que quelle équipe sera la favorite? Est-ce que ce sera la Lidl Trek ou est-ce que ce sera la SD Works? Est-ce qu'on va avoir un coup qui sort de nulle part? Moi, je trouve que bon, la DSM, elle n'a pas extrêmement bien couru sur le rond. Enfin, sur le début de course, en fait, on les voyait énormément. Et en
C'est vrai.
fait, après, dès que les monts sont arrivés, elles ont totalement disparu. Et est-ce que ça va être le cas sur Paris-Roubaix ou pas? Parce que moi, j'ai trouvé que leur train était super bien organisé. Et en fait, ça a été. Est-ce que c'est le dénivelé positif qui a fait que les coureuses n'ont pas réussi à suivre? Ou est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette équipe disparaisse totalement? Est-ce que
Non,
tu penses qu'ils ont vraiment une
il y
chance
avait
sur
que
Paris-Roubaix?
Pfeiffer Georgie qui. Qu'on a vu un moment à l'avant et dans les bons coups, et puis après, c'est vrai qu'elle a sauté sur la fin, et je crois que c'est elle hein, qui fait le meilleur résultat de l'équipe, si je me trompe pas.
Oui, c'est bien elle.
Donc, oui, un petit peu. Bah, du coup, ouais, alors je sais pas si c'est décevant ou si c'est plutôt surprenant de les avoir vus rouler comme ça. Mais en tout cas, sur Paris-Roubaix, elles auront l'avantage d'avoir la présence de Charlotte Kohl. Qui est sprinteuse et puis qui a plus un qui a fait des deuxièmes de Bruges de Panne, quatrième à Ganvevelgem, donc qui clairement pour moi peut être considérée comme une favorite de Paris-Roubaix. Les monts c'est pas forcément son truc, elle n'était pas alignée sur le Tour des Flandres, mais ouais à voir. Alors après moi c'est pas forcément l'équipe que j'attendrais le plus. Pour moi la Lidl Trek en tant que vainqueur du tour, équipe qui a gagné le Tour des Flandres, pour moi, elle va avoir peut-être pas une pression supplémentaire, mais elles viennent quand même de faire 1 et 3 du round 2. Elles ont été très en vue sur les classiques pavés. Donc, je pense que
Ouais,
là,
je pense.
je sais pas si la pression ou le poids de la course va peut-être plutôt reposer sur elles, et d'autant plus qu'elles ont quand même plusieurs cartes à jouer et mener une course offensive en partant de loin, elles pourront totalement le faire.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs enfin, niveaux d'équipe. C'est sûr que la SD Works et la Lidl sont au-dessus. Après, peut-être que la DSM, la Visma, etc. sont, c'est pour sûr un cran en dessous. Parce que moi, par exemple, tu vois, je trouve que la Visma sur le rond 2, ils n'ont pas fait une super course. Voss se retrouve très vite assez esselé, et je me suis dit, ah bon, on les voit pas trop. Qu'est-ce qui va se passer? Après, Marianne Voss, tu sais que
Même
même si
toute
elle se
seule, elle
retrouve
peut
toute
gagner.
seule, même toute seule, elle fait quelque chose. Enfin, elle a 250 victoires. Je pense qu'il y a pas grand-chose qui peut l'empêcher de gagner. Il y a deux équipes qui sont au-dessus et je pense qu'après ça va faire le tri derrière quoi. Après c'est une édition qui, enfin par la nature de la course, va être excitante et qui va vraiment donner envie. Bon après la SD Works ils perdent du monde quand même sur le rond 2 et en fait est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la course? Van Dijk, il me semble qu'elle est sûre sur la start list de la Lidl Trek mais je pense
Ouais,
qu'elle
mais
va être
ça, on
assez
sait pas.
incertaine.
Il y a pas encore les start list définitives non plus. Donc là, pour l'instant, à l'heure où on enregistre, donc on peut pas forcément faire des. Ouais, avoir tous ces détails-là. Mais c'est sûr que ça va jouer hein, pour la SD Works. En fonction de. Pour la SD Works. Pour la
Pas
Lidl
pour les
Trek
deux, hein.
aussi.
Pour les deux,
Ouais.
il y a quand même, il va manquer des gros moteurs, ça va avoir un impact sur la course, c'est sûr. C'est Marlon Reusser qui va vraiment manquer, je pense, enfin, je ne sais pas si elle était prévue de base sur la course. Bah, justement, c'est comme on enregistre un peu avant la course quand même, on n'avait pas les starts définitives. Mais il me semble que si elle a fait le rond 2 et qu'elle était peut-être aussi prévue sur
Bon, en
sur
tout cas,
Paris-Roubaix.
c'est une fille qui peut être hyper, hyper compétitive sur Roubaix, ça c'est clair.
Donc, est-ce qu'elle va manquer? Bah, c'est sûr qu'elle va manquer, mais bon, après, pour toi, quelle. Par exemple, donne-moi quelques noms de favorites qui pourraient, enfin, que tu considères vraiment ultra favorites pour Paris-Roubaix.
Bah, je pense que Lotte Kopecky, elle va quand même vouloir se venger beaucoup de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle était annoncée en grande favorite sur le Tour des Flandres. Elle a clairement pas tenu son rang. Elle est championne du monde. Elle est annoncée comme l'ogresse qui doit remporter quasiment toutes les courses. C'est aussi beaucoup de pression. Et je serais surpris qu'elle ait à nouveau de mauvaises jambes dimanche prochain. Après, on sait que c'est Roubaix, hein, ça peut se jouer sur un ennui mécanique ou sur une crevaison ou sur un coup de pas de chance, donc c'est assez difficile, mais je pense que à la fois Kopecky et Vos auront envie déjà de remporter cette course, parce qu'elles n'ont pas encore épinglé à leur palmarès, hein. Elles ont fait Vos avait fait deuxième en 2021, Kopecky avait fait deuxième en 2022. Donc clairement, c'est vu le palmarès de ces deux filles, elles vont vouloir accrocher Paris-Roubaix. Vos, elle aura plus non plus des masses de chance, donc je pense qu'elle va, voilà, elle va être très forte à mon avis. Elle a bien préparé tout ça, mais il va falloir, avoir de la réussite. Mais je pense quand même que là, les favorites vont peut-être moins se faire avoir, mais je pense quand même qu'on aura une course d'anticipation qui va se décanter d'assez loin. C'est un petit peu comme ça que ça s'est gagné, hein, les trois premières fois, hein, ils n'ont pas attendu le carrefour de l'arbre pour faire la différence à la toute fin. Et je pense que dans l'enchaînement où on est à une cinquantaine de kilomètres là de l'arrivée après Orchies vers Mons-en-Pévèle, qui est un des secteurs pavés les plus durs de la course, même comme la course femme, il n'y a pas le carrefour de l'arbre, je pense que. Il n'y a pas, pardon, la trouée d'Arembert. Avec le carrefour de l'arbre, Mons-en-Pévèle, c'est le plus dur. Moi, je vois bien la course décanter d'assez loin. Et pourquoi pas profiter alors soit d'une échappée matinale où il y a des filles qui sont devant, qui peuvent servir de relais à un moment. Hein. Je pense notamment, par exemple, à la Visma pour Marianne Vos. Je vois pas une de ses coéquipières pouvoir l'accompagner à un moment aussi stratégique de la course si tout le monde est à bloc. Mais ouais, un peu dans l'anticipation. Et puis Kopecky, à voir comment elle va courir aussi. Il y aura le Lorena Wiebes qui peut faire quelque chose aussi, hein, avec son physique, et puis sa progression aussi sur les courses d'un jour, qui peut être très performante sur Roubaix. Donc à voir comment est-ce que les deux vont pouvoir coopérer. Mais ouais, clairement, c'est un peu les deux grandes favorites que je vois. Après, voilà, c'est
Et
pareil, hein.
Balsamo aussi.
Balsamo aussi, ouais. Balsamo, j'allais parler un petit peu de la Lidl Trek, où elles auront du coup une carte supplémentaire à jouer avec Longo Borghini, Van Aanroy et puis Balsamo qui était un petit peu en retrait, hein, sur le round, mais c'est une course qui correspond moins. Non, elle était sur le round.
Il me semble qu'elle
Oui,
l'a
elle était
pas
sur le round.
fait.
Oui, si, si,
Elle était
si, si, elle était. Mais
sur.
elle a fini loin. Ouais, il me semble avoir aperçu un moment,
Elle n'arrive pas trop à passer les bosses,
ouais, c'est ça.
c'est
C'est
le
le
problème.
problème. Et l'avantage, c'est que sur Roubaix, il n'y a pas de boss. Donc, du
Bah, c'est
coup.
comme Vibus, c'est que les deux physiques se ressemblent quand même
Ouais,
pas mal.
c'est
Et
ça.
en fait, bah, sur l'ondeau, je pense qu'elles avaient plus un rôle où bon, tu vas essayer de bosser un peu au début de course et on sait que sur le final, ça va être très compliqué pour vous. Est-ce qu'elles y étaient un peu comme un Van Baarle sur la course masculine, en train de faire un peu l'échauffement, tu vois,
Pour
pour Balsamo, parce que pour Balsamo, est-ce que
à voir.
voir si niveau est-ce qu'il fallait faire de la caisse, etc. Bon, Vibus, elle a quand même tout donné sur le rond 2 et on l'a vu à l'avant, donc c'était peut-être pas le cas. Mais ce genre de physique a bien plus ses chances sur un Paris-Roubaix où, en fait, justement, si à cause des pavés, là, enfin, il faut vraiment avoir un peu un physique un peu plus lourd quand même pour pouvoir passer tout ça, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis pour finir sur la Lidl Trek, alors je sais pas si elle est dans la startlist définitive, mais en tout cas elle était sur le round 2 là dimanche dernier. Elle a fini 22e. C'est Lucinda Brandt, la spécialiste du cyclocross, qui a déjà terminé 3e de Paris-Roubaix, je crois que c'était en 2022. Et clairement, c'est une carte en plus dans cette équipe et qui, à mon avis, va. Enfin, clairement, je pense que c'est l'équipe la mieux armée, la plus complète pour lancer la course de loin et vraiment envoyer des filles qui ont la capacité de s'imposer à plus de 50 km de l'arrivée et de débrider un petit peu cette course. Donc ça va être en tout cas ça va être hyper intéressant à suivre à voir. J'espère qu'on aura autant de suspense que ce qu'on a eu dimanche dernier en tout cas.
J'espère, mais est-ce que tu penses que par exemple IF pourrait essayer de refaire un coup comme l'année dernière ou est-ce qu'ils vont trop avoir la pancarte?
Non, elles n'auront pas la pancarte, mais faut prendre l'échappée, quoi. Enfin, Alison Jackson, elle va pas aller gagner à la pédale en sortant Vos et Kopecky dans le carrefour de l'arbre. Donc, clairement,
On l'a pas trop vu justement sur le début de
non,
saison, je
mais de toute
trouve.
façon, c'est pas une fille qu'on. Enfin, elle a gagné Paris-Roubaix parce qu'elle était dans l'échappée l'année dernière et qu'elle a eu de la réussite, mais c'est pas une fille qu'on voit à l'avant des courses. En tout cas, plus il y a eu un. Voilà, elle a quelques victoires à son palmarès, mais c'est. Voilà, c'est Paris-Roubaix, c'est. Voilà, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure
Sa
rapidement de
victoire.
Matthew Heyman chez. Alors c'est pas sa seule victoire, elle a gagné 2-3 autres courses aussi, mais comme Matthew Heyman chez en 2016 là, quand il s'impose, bah c'est le jour où les planètes elles s'alignent pour des coureurs qui sont pas des coureurs de haut calibre. Donc pour une fille comme Alison Jackson, c'est ça. Donc après, ça se trouve, alors c'est peut-être qu'elle pourra pas se reglisser dans l'échappée parce que quand même on se méfiera un petit peu, encore que à voir, hein. Mais en tout
Elle est
cas,
bien
l'échappée sera
reconnaissable avec son
prisée.
maillot.
Pardon?
Elle est bien reconnaissable avec son maillot
Ouais.
national canadien. Donc
Qui
là, c'est une
claque.
grosse tache rose. Donc ça serait compliqué
Ça serait
de
compliqué de
partir
l'année
dans
manquée.
l'échappée.
Ouais. Du coup, toi, qui est-ce que tu vois s'imposer là sur le vélodrome pour finir avec, allez, un petit prono?
Oula, tu me poses des questions. Ça va être quand même très, très. Il y en a plusieurs, quoi.
Ouais. C'est ça qui est dur.
Est-ce qu'on continue sur un super Lidl Trek en disant que Balsamo va gagner et qu'en fait ils vont faire le début de l'année? Moi j'aimerais bien voir Vos gagner. Franchement,
Ouais, ça me ferait plaisir aussi.
ça me ferait énormément plaisir de l'avoir gagné et je pense que ça. Bon, il n'y aura plus vraiment plus rien à gagner pour elle, elle aura vraiment bouclé la boucle de la boucle. Mais non, j'aimerais bien vraiment qu'elle gagne, donc on va dire Vos.
Allez, eh ben, très beau pronostic. On va la suivre en tout cas
Et toi alors?
forcément avec attention. J'aimerais aussi beaucoup que Vos s'impose, mais moi, je pense que Kopecky elle va être hyper revancharde et elle a envie de gagner une autre grande course après l'Estrade Bianche avec le maillot de championne du monde. Et je la vois bien vraiment faire un grand coup et l'emporter.
Donc est-ce que tu donnes des chances à Vibus ou pas? Est-ce que
Ouais,
parce
aussi,
qu'elle fait quand
ouais.
même aussi un super début de saison,
Ouais,
hein.
aussi. Mais je pense que s'il y a un. En fait, si tu veux, si elles sont dans un groupe à un moment, la fille qui attaquera, c'est pas Vibus, c'est Kopecky.
Je suis d'accord,
Et je pense que
totalement d'accord.
Kopecky peut bénéficier de ça et Vibus aura entre guillemets bien sûr juste à suivre et puis pour le sprint donc voilà et puis si ça arrive au sprint c'est un sprint sur une piste et on sait à quel point Kopecky est absolument monumental sur la piste donc ça c'est aussi un avantage pour elle.
Ce sera une bonne préparation pour elle, pour les JO aussi, pour la
Ouais,
piste.
voilà, je sais pas si ça peut être considéré comme une prépa spécifique, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Loïc, merci beaucoup pour ce moment passé à parler de cyclisme féminin, à débriefer le Tour des Flandres et voilà, à mettre un petit peu les auditeurs et auditrices en haleine avant Paris-Roubaix. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup.
Ouais, on se retrouve très vite. On va essayer de débriefer aussi ce Paris-Roubaix et aussi continuer sur le reste de la saison. Et j'espère aussi qu'on va avoir des nouvelles sur l'affaire Vollering. Donc,
On en reparlera, promis.
on en reparlera quand il y aura des choses concrètes, je
Voilà,
pense.
exactement. Mais en tout cas, effectivement, on va arriver très vite aux Ardennaises après Paris-Roubaix, donc on pourra reparler de toutes ces courses très rapidement. On remercie voilà, toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Un petit like également sur la vidéo. Ça nous soutient dans notre démarche. À l'heure où on enregistre, on est quasi, il nous manque moins de 10 personnes pour être à 2000 abonnés. Donc voilà, peut-être que quand la vidéo paraîtra, on sera à 2000, qui sait. En tout cas, merci beaucoup. Allez aussi voir, comme d'habitude, nos réseaux sociaux. On a toujours les articles écrits de Simon et de Matt voilà, qui décortiquent à la fois l'actualité et l'histoire du vélo. C'est absolument passionnant. Donc n'hésitez pas à suivre ces pages et à mettre un petit commentaire, un petit like. Merci encore Loïc. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Ah, on vous fait des bisous et puis surtout, comme vous avez vu sur le Tour des Flandres, il y a eu de la pluie, il a fallu s'alimenter énormément sur Paris-Roubaix. On ne sait pas s'il y aura de la pluie dans tous les cas. Il faudra penser à manger, à boire et à manger parce que vous le savez, la fringale guette. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.